RFI, les midis à Paris, 10h en temps universel. Tout de suite, le journal avec vous, Karine Bellicha, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. À la une, un avion d'Air India s'est écrasé ce matin en Inde. L'appareil relié Ahmedabad dans le nord-ouest du pays à l'aéroport de Gatwick à Londres. Il y avait 242 personnes à bord. On y revient dès le début de ce journal. Plus de 200 militants pro-palestiniens ont été arrêtés au Caire. Ils s'étaient donné rendez-vous dans la capitale égyptienne pour participer à une marche internationale vers Gaza. Une caravane est aussi en Libye, partie de Tunis. Elle compte aussi rallier l'Égypte. Nancy Sinatra assure que sa musique vivra pour toujours. Bob Dylan salue le génie de Brian Wilson. Pluie d'hommage après la disparition de l'immense musicien, cofondateur des Beatles. Boys, mort à l'âge de 82 ans. Et cette catastrophe aérienne pour débuter ce journal, Sébastien Farcy nous a rejoint pour en parler. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
En Inde, un avion long courrier de la compagnie Air India s'est donc écrasé avec 242 personnes à son bord. Il venait de décoller de l'aéroport d'Ahmedabad dans le nord-ouest du pays et faisait route vers Londres, Sébastien.
Oui, il est environ 13h30 en Inde. Le Boeing 787 d'Air India décolle de l'aéroport d'Ahmedabad, capitale de l'état du Gujarat. Quelques minutes après, le pilote envoie un message de détresse, puis c'est le silence. Une vidéo en ligne montre le Boeing descendre rapidement, puis s'écraser dans une zone résidentielle. L'explosion est énorme. L'avion partait pour près de 10 heures de vol vers Londres. Les réservoirs étaient donc pleins. Encore difficile d'identifier la cause de l'accident. Ce qui est sûr, c'est que 230 passagers se trouvaient à bord, principalement des Indiens, ainsi que 53 Britanniques, puis 12 membres d'équipe. Une dizaine d'ambulances et de pompiers sont déjà sur place, mais les chances de survie sont minces. Il pourrait en plus y avoir des victimes au sol. Ce quartier de l'aéroport est très peuplé et un grand bâtiment a déjà été endommagé. Ce genre d'accident est relativement rare en Inde et pourrait être le plus meurtrier depuis 30 ans, mais le trafic aérien est en très forte croissance dans le pays, ce qui en accroît les chances. Cela frappe aussi de plein fouet Air India, la compagnie la plus ancienne du pays, qui vient d'être privatisée et rachetée par le groupe Tata.
Sébastien Farcy du service international de RFI. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. À Gaza, l'internet est coupé dans l'ensemble de l'enclave. Le téléphone fonctionne à minima. Le ministère palestinien des télécommunications parle d'une attaque israélienne sur la dernière ligne principale de fibre optique encore en service. Les équipes de maintenance ne peuvent pas accéder au site où le câble a été endommagé en raison des frappes israéliennes. Pressé par Israël de bloquer une caravane en route vers Gaza, les autorités égyptiennes ont interpellé plus de 200 militants pro-palestiniens au Caire. 4000 militants de 44 pays ont réservé des vols pour l'Égypte pour participer à une marche. Leur objectif est de partir du Caire en bus pour rallier la ville d'Arish dans le nord du Sinaï, puis de rallier Rafah à pied du côté égyptien de la frontière avec Gaza, soit 50 km de marche en 3 jours. Parmi eux, Samuel Crétenant, militant suisse et coordinateur de l'initiative qui vise à briser le siège autour de l'enclave palestinienne. Notre correspondant en Égypte, Martin Dumas Primbault, l'a rencontré hier au Caire.
Dès mardi soir, quelques-uns des premiers militants arrivés par avion ont été interpellés à l'hôtel ou à l'aéroport par la police égyptienne.
Toutes les personnes qui ont été interrogées sont libres en fait. On n'est pas là pour cibler le gouvernement égyptien. On est très conscients, les organisateurs de ce rassemblement, que c'est un génocide occidental. Donc nous, notre but, c'est de faire pression sur nos pays respectifs.
Pour le militant suisse, la sécurité des participants est une priorité. Il en appelle à la collaboration des autorités locales.
Et on appelle les autorités égyptiennes à nous tendre la main pour pouvoir mettre en place cette sécurité. C'est qu'on n'a pas de feu vert, mais on n'a pas de feu rouge. Donc le mouvement est en place. Les gens viennent de tous les pays du monde maintenant. Et tant que on n'a pas un blocage strict des autorités égyptiennes, on continue notre planning de partir en bus et de rentrer dans le Sinaï.
Dans un communiqué publié mercredi soir, le ministère égyptien des Affaires étrangères conditionne tout accès à la frontière avec Gaza à l'octroi d'une autorisation préalable, sans donner plus de détails. Martin Dumas-Primbault, Le Caire, RFI.
Et Samuel Cretenon, ce militant suisse, ne fait pas partie des personnes arrêtées au Caire. L'Agence internationale de l'énergie atomique condamne l'Iran pour non-respect de ses obligations nucléaires. Un nouvel avertissement de l'AIEA avant un éventuel renvoi du dossier à l'ONU. Réponse immédiate de Téhéran qui affirme qu'il va construire un nouveau site d'enrichissement. Déjà hier, Téhéran avait menacé de cibler les bases militaires américaines en cas de conflit avec les États-Unis, alors que les deux pays ont engagé des pourparlers directs. Les manifestations s'étendent aux États-Unis contre la politique migratoire de Donald Trump, à New York, Saint-Louis ou Denver notamment. Nouveau rassemblement pacifique hier soir aussi à Los Angeles, avant le couvre-feu. Une mesure prise, dit la maire de la ville, pour arrêter les fauteurs de troubles qui profitent de l'escalade chaotique du président. Les autorités locales dénoncent le déploiement de l'armée décidé par Washington. Depuis vendredi dernier, les manifestations contre les interpellations massives d'étrangers en situation irrégulière se multiplient. Les feux de forêt redoublent d'intensité dans l'ouest du Canada. Les flammes dévorent tout sur leur passage. Plus de 3 millions d'hectares sont déjà partis en fumée, attisés par des vents violents et une sécheresse persistante. Alors que 35 000 Canadiens ont été forcés d'évacuer, la crise s'intensifie, notamment en Colombie-Britannique et en Alberta, où des incendies majeurs mettent en péril des communautés entières. La correspondance de Nafia Libert.
Chaque après-midi en Saskatchewan, le rituel est le même. Ces derniers jours, les autorités dressent la liste des feux actifs dans cette province des prairies canadiennes. Ils s'appellent Shoe, Wolf ou Ditch, nommés comme des tempêtes, des immenses brasiers traqués sans relâche. Ici, la pluie est enfin tombée, les vents se sont calmés, offrant un bref répit aux équipes de lutte contre les incendies. Le premier ministre Scott Moe a d'ailleurs annoncé hier le retour progressif des milliers d'habitants de Laronge, dans le nord de la province. Ils avaient été parmi les premiers évacués il y a une dizaine de jours. Mais ailleurs, la menace s'intensifie, notamment en Colombie-Britannique. Un nouveau feu de forêt a quadruplé en quelques heures. Il se trouve à une soixantaine de kilomètres de Vancouver et menace désormais près de 25 000 habitants. Avec une nouvelle vague de chaleur attendue cette semaine, la situation pourrait se détériorer alors que des incendies de plus de 100 000 hectares sont maintenant actifs dans 5 provinces. C'est dans ce contexte brûlant que le Canada s'apprête à accueillir le G7 dans l'une d'entre elles, à Kananaskis, en Alberta. Le nouveau premier ministre canadien Mark Carney a inscrit la lutte contre les feux parmi les priorités du sommet, appelant à une réponse conjointe et davantage de coopération internationale. Pour l'instant, les flammes ne menacent pas la rencontre, mais des plans d'évacuation sont prêts si elles venaient à se rapprocher. Nafia Libert, Montréal, RFI.
L'immense musicien, bassiste, chanteur, producteur et compositeur Brian Wilson, cofondateur des Beach Boys, est décédé hier à l'âge de 82 ans. L'album Pet Sounds, sorti en 67, est considéré comme l'un des disques majeurs de l'histoire du rock. Les Beach Boys, tout comme les Beatles de l'autre côté de l'Atlantique, ont joué un rôle crucial dans l'évolution de la musique pop. Les deux formations s'observaient mutuellement d'ailleurs, entre rivalité et émulation. Écoutez Rémi Boiteux, journaliste aux Un Rock.
Brian Wilson avait cette envie de faire mieux que les Beatles, comme les Beatles, en retour, avaient envie de faire mieux que les Beach Boys. Ça a été vraiment deux groupes qui se sont nourris, au-delà de la rivalité, mais de l'admiration qu'ils pouvaient avoir les uns pour les autres. On a beaucoup parlé de la rivalité entre les Beatles et les Rolling Stones. D'un point de vue peut-être commercial et médiatique, c'était tout à fait exact. Mais d'un point de vue purement artistique, je pense que la grande rivalité des années 60, elle a été entre les Beatles et les Beach Boys. Il n'y aurait peut-être pas eu Sgt Pepper s'il n'y avait pas eu Pet Sounds. Aujourd'hui, bon, allez, Bob Dylan est peut-être complètement hors concours, mais de cette époque, nous restaient Paul McCartney et Brian Wilson. Ça permet de mesurer la perte que l'histoire de la pop subit aujourd'hui.
Et voilà un extrait de Pet Sounds pour finir ce journal.